Hause.
Ah. Ouais. Action, réaction.
Oh. Ah, ça fait beaucoup.
Vous jugez ton vrac. Des cinq principes, ça fait quand même penser à certains des... Je ne suis pas spécialiste du tout, mais... des clichés sur la médecine orientale. Et je trouve qu'on n'est pas si loin des courants holistiques actuels. Alors, voilà, ça m'a fait penser à ça.
Mais c'est vrai que là, on prend plus la maladie dans un aspect symptomatique où elle est isolée du tout, en fait. C'est vraiment la vision holistique. Enfin, moi, je retrouve vraiment ces principes-là dans beaucoup de méthodes de soins. Dans une vision en fait globale voilà, du soin pour établir en fait une forme d'homéostasie dans le corps.
Mais du coup toi tu c'était une pensée critique quoi.
Eh ben non, c'est une pensée un peu.
Raisins,
c'est une réaction qu'une pensée, mais J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est. On pense toujours par rapport à notre petit environnement et ce qu'on voit, on croit que c'est la norme, on sait bien que ce n'est pas le cas.
On est condamné à ça.
Mais la pluridisciplinarité, la médecine holistique, le patient comme acteur et comme pilote de sa vie, la recherche des causes, tout ça, c'est vraiment hyper contemporain. Et il y a un gros paradoxe, et ça m'a fait penser aussi, il y avait une émission sur le sommeil, et il y a un psychiatre, qui parlait des maladies, qui disait, ben voilà, il y a actuellement, les agences régionales de santé, tous les organismes qui donnent des conseils, disent, ben dans les dépressions, il serait qu'il faut arrêter de donner de la drogue, parce que ça ne marche pas. Ça endort les patients, mais ça les guérit pas. Il faut utiliser la méditation, il faut utiliser la médecine parallèle, il faut utiliser machin tout. Donc c'est un psychiatre qui dit ça. Et par contre, les drogues elles sont remboursées, mais les médecines qui sont conseillées ne le sont pas. Donc j'ai l'impression qu'on a une espèce d'envie d'aller vers l'anarchie, mais qu'on n'arrive pas du tout. Enfin, en tout cas, que notre système il est tellement. Qu'on n'arrive pas à faire entrer dedans, quoi.
Alors, ce qu'il appelle les drogues, c'est les médicaments.
Oui, il le dit pas comme ça, mais les je sais pas comment ça s'appelle, les médicaments contre les dépressions,
les psychotropes,
ou les somnifères, toutes ces choses-là.
C'est ce que tu disais sur le cloisonnement, en fait. Ouais, pour le coup, on organise un cloisonnement en rendant accessible au remboursement des. C'est comme entre des psychologues et des psychiatres. C'est-à-dire que les psychiatres ils sont remboursés, du coup, ceux qui ont besoin d'un psychologue ou d'un psychothérapeute vont voir le psychiatre parce que c'est remboursé.
Ce qui n'est pas le cas du psychologue, c'est ce que tu veux dire.
Et le psychologue n'est pas remboursé, du coup, les gens ils vont toujours voir les psychiatres. Quoi. Et les psychiatres ils sont blindés, les psychologues ils peinent à travailler. Tout ça à cause du remboursement. Et un psychiatre, c'est pas un psychologue. C'est pas la même formation.
Ça embrouille encore plus le truc de dire on est complètement dans une société je peux utiliser un mot médical mais où on se heurte entre des désirs entre deux types de désirs, celui d'être protégé à tout prix matériellement, physiquement, etc. Et cette envie de pouvoir se soigner comme on veut, mourir comme on veut, vivre comme on veut.
Ah oui, tout à fait. Ah ouais, le fait de mourir à l'hôpital et mourir chez soi, c'est un vrai enjeu politique, en fait.
Et qui est effectivement... je ne suis pas sûre que si on réfléchissait bien tous individuellement... On peut aspirer à une grande liberté de faire, je ne suis pas sûre qu'on aurait envie de dire du jour au lendemain, on enlève toutes les règles et on fait confiance à l'entraide. Mais ça serait formidable, hein. Mais je ne suis pas sûre que je voterai pour tout de suite comme ça là maintenant.
Il y a quand même eu de l'entraide pendant le confinement.
Ouais, ça a réveillé.
Ça a réveillé des choses inattendues. Ça a réveillé des choses.
Alors, soit naturel, soit effectivement.
Des personnes qui sont allées voir d'autres personnes de façon spontanée.
marchais dans la rue, là, il y a plein de fils de tendus entre les deux immeubles. Je ne sais pas si vous avez...
Non, j'étais confinée.
En fait, les gens tendaient des fils entre leurs appartements, donc avec un système de... de plouguis, en fait, ils passaient, je pense, la journée à fabriquer des décorations en papier, et du coup, le soir, au moment des applaudissements, là, après, ils mettaient leurs décorations. Et ça me fait penser à ce que vous dites. Tout d'un coup, il y avait une création commune, il y avait une sorte de contact.
On est dans le soin, est dans le soin du commun, de la vie, de la relation. Hein.
C'est lié, il me semble, à la fraternité,
Carrément. Au lien social, oui. Au lien social aussi. Ce qui n'est pas exactement la santé, Mais ça dépend de quelle conception on a de la santé, quoi. Je pense qu'on a une conception de plus en plus élargie quand on parle d'approche globale sur la santé, bien-être biopsychosocial, l'OMS dit ça.
En tout cas, c'est une vraie tentation. On sent que c'est une vraie tentation d'aller vers une vie qui serait autogérée, sous la forme d'une expérience, d'une sagesse, enfin, je ne vais pas utiliser le mot sagesse, mais en tout cas, où chacun serait suffisamment à l'écoute de soi-même et son petit environnement pour créer une société équilibrée. Et c'est quand même, on sent ça quand même, cette envie, même si, effectivement...
Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute des autres. Enfin, il me semble que c'est dans un même... dans un mouvement de va-et-vient, quoi.
Et comment on nomme dans ce cas-là la situation où si justement l'État au niveau de sa santé publique ne peut pas apporter une aide par rapport à une situation bien particulière, tu en parlais tout à l'heure, mettons une maladie rare, j'en parle personnellement, est-ce que ça veut dire que je deviens libre parce que j'essaie de faire comme je peux pour aller chercher d'autres solutions que l'État ne peut pas me donner. Et c'est ce dont tu parlais, effectivement, chacun devient expert dans son domaine et finalement n'est plus représenté en termes de politique d'État et du coup il n'y aura pas un financement qui permettra d'eux. Donc est-ce qu'on est là quoi, dans une liberté où on fait ce qu'on peut, quoi aussi, enfin, l'esprit d'anarchie
Là tu poses deux problèmes. Premier problème qui est le problème de l'argent. Finalement, est-ce qu'on a... Parce que l'argent, c'est un... Si finalement, il n'y avait pas de problème d'argent, enfin, si c'était juste des... Si on n'avait pas besoin d'argent, déjà, ça serait déjà éliminé. Et après, il faudrait que toi, moi, j'ai ce problème-là. Et tu fais ton staff de compétences. C'est pas une question d'argent, du coup, puisque l'argent n'existe pas. Et puis tu crées... Puisque tu as cette liberté de dire, moi, je pose ça sur la table. Qui vient.
C'est pour ça que j'ai discuté de cette notion, du coup, à ce moment-là, de liberté, mais qui n'est pas une liberté volontaire, mais qui est une liberté parce qu'à un moment donné, effectivement, en face, un système qui, malgré tout, prétend tout couvrir, ne va pas couvrir ça spécifiquement, parce que, alors là, pour différentes raisons, peut-être que ça ne rapporte pas, c'est pas la maladie à la mode, enfin, voilà, il peut y avoir plein de. Mais du coup, se pose cette question de, dans ce cas-là, quelle est ma part de liberté ? En fait, à ce moment-là, est-ce que je suis dans l'anarchie ou...
Mais du coup, qu'est-ce que vous aimeriez ? Une plus forte réponse de l'État ou une plus grande liberté pour... Ou les deux ?
Mais je ne sais pas, en fait, c'est ça. C'est ça, ça me questionne, du coup. Finalement, à quel moment je pourrais me dire, super, je fais comme je veux. Oui, mais parce qu'il y a un système qui, finalement, ne couvre pas tout, mais ce qui est normal. Mais est-ce que maintenant je vais pouvoir prôner à dire ah oui, mais il faudrait que tout soit pluridisciplinaire et ça permettrait de régler les choses. Et voilà, c'est cette question de effectivement, est-ce qu'on se sent libre à ce moment-là ou non, quand on comble peut-être même l'État sur des manques qu'il peut y avoir, on est cloisonné mais on va s'entraider. Enfin, c'est. J'aimerais me dire anarchiste à des moments. Et puis à des moments, on se dit tiens. L'État est présent dans un système, quoi.
Mais alors, c'est marrant parce que... comment c'est ton prénom,
Stéphanie.
Tu disais, j'ai peur de ne pas être prête, ou un truc comme ça, je sais pas si je dis des bêtises, tu m'arrêtes, pour l'entraide, et toi, tu dis, je suis pas sûr d'être prêt pour la liberté. On n'est pas prêt, quoi, c'est ça?
Non, j'ai peur de ne pas être prêt. Alors, moi, c'est vraiment une question de confiance. C'est horrible ce que je suis en train de dire. C'est horrible.
Mais bon, non, je vais dire ce que c'est.
Ah, bah ouais, mais là, pour
moi,
ça...
je me sens prête, mais j'ai peur des autres. C'est horrible. Mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment peur actuellement de certains mouvements de... où je me dis, est-ce qu'on est capable. Et puis peut-être que je peux avoir peur de mes réactions aussi, hein, je plaisante, mais est-ce qu'on est vraiment armé aujourd'hui? Ça fait tellement de temps qu'on est assisté. Est-ce qu'on est vraiment armé pour aujourd'hui pratiquer l'entraide, la plus simple des exceptions, hein, qui est celle qui a permis effectivement. Enfin, c'est aussi, ce mec dont tu parlais, là, il a prouvé que, en gros, dans la durée, les sociétés qui se... La loi du plus fort, elle fonctionnait dans l'immédiat, mais ça ne durait pas dans le temps.
Les
sociétés
la, la concurrence, si tu veux, dans l'immédiat, fait qu'effectivement les hommes sont un loup pour l'homme,
voilà.
Mais que pour la survie de l'humanité, si tu veux, durée, c'est l'entraide qui compte.
C'est l'entraide qui a... Et ça, c'est prouvé. Enfin, c'est prouvé.
Peut-être pas les travaux de Wilkinson et
Pickett et Wilkinson. Et Pickett.
Ouais.
Sur ce point.
Sur le fait que enfin, ils parlent pas d'entraide, mais en tout cas, une société égalitaire est une société.
Ouais, la corrélation, mais t'en avais bien parlé sur notamment les inégalités de revenus. Oui, c'était resté sur les revenus et le bien-être général de la même population. Sur tout un ensemble d'indicateurs qui vont indicateurs de santé type. Etc., mais qui est beaucoup plus large, même de criminalité, etc. Hein. Et il y a une corrélation complètement. Hein. Mais bon, là, ça serait enfin encore touché parce que là, on est en termes de l'entraide. Après, il faut rentrer. Moi, ce que en répondant à ça, c'est qu'une société ou une doctrine d'ensemble qui prône la compétition en permanence, bon, c'est le maître mot qu'on prône. L'adaptation, la compétition, il faut s'adapter au monde. On prône ça d'un côté, avec tout un historique, quand même, d'histoire sociale, où on prône le principe de solidarité et de fraternité aussi derrière. On voit que ça crée une forme de collision aussi. C'est comme tu disais, une solidarité nationale, si elle n'est pas animée, si elle est juste instituée, pas animée à l'intérieur par quelque chose qui lui permet de subsister, après ça crée des fissures et ça devient une mécanique qui est de plus en plus décriée. L'enjeu, c'est d'alimenter une solidarité bien citoyenne qui alimenterait la solidarité nationale, en fait, et qui permettrait d'aller toujours plus loin, même dans les droits sociaux, tout ça, mais sans qu'il y ait une forme d'animation qui la ferait vivre, ça devient après un des rouages, on va dire. Et je pense que c'est toutes ces... Comme il le parle un petit peu, ces exploitations, ces espaces pluriprofessionnels, où l'usager reprend une place, ou... de proximité, etc., participe à recréer cette forme de solidarité beaucoup plus, on va dire, locale, citoyenne, hein, qui alimente réciprocitaire, quoi. Hein.
Après, ça a ses limites, puisqu'on parle vraiment du... Pour parler de maladie, cette proximité, elle a ses limites. On voit comme la coopération internationale, en termes de recherche, peut apporter sur des maladies... sur des progrès, sur l'éradication de maladies et de choses comme ça, où là, pour le coup, c'est super important qu'il y ait des... Enfin, c'est super important, ça semble super important qu'il y ait des organisations qui coopèrent à plus large échelle et qui sont très structurées, très...
L'important, c'est l'articulation, je pense, à trouver des...
Hein, et la liberté, parce que c'est pas parce qu'il y a une organisation que les individus qui en font partie sont pas libres, hein.
J'ai une question technique pour m'amener dans la réflexion, mais est-ce qu'aujourd'hui toutes les associations, toute cette société civile qui intervient au niveau des États est considérée comme faisant partie de la santé publique, ou finalement c'est un acteur anonyme entre guillemets qui comble ce...
Je sais pas, il faudrait faire un tour de table. Moi, je peux donner un avis, mais qui est un avis de citoyen. Hein. Je peux enquêter là-dessus. Je pense que...
Parce que, pardon, quand on parlait de l'entraide, moi, je trouve que, justement, cette société civile fait beaucoup. Ouais. Les associations font beaucoup, autant au niveau des malades. Ouais. Mais c'est une manière, peut-être, on parle effectivement de l'entraide personnelle, individuelle, mais il y a une entraide existante... commune et...
C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs conceptions de la société civile. Tu as une conception, si tu veux, plutôt compétitive pour le coup, où tu as des grosses associations humanitaires nord-américaines. Nous, on a plutôt des ONG qui sont moyennes, qui se substituent complètement à l'État, voire aux États qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire Oxfam ou d'autres en Afrique, ils ont des, ou Bill et Melinda Gates, enfin, ouais, ils ont des budgets qui sont aussi importants que le budget national de la France. Donc ça, c'est une conception. Et puis il y a une autre conception qui consiste à dire l'État est déficient, l'État a des failles par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Alors toi, tu parles des maladies rares parce que tu es impacté par ça, mais les failles, ça peut être, je sais pas, la question de l'accès aux soins des plus démunis, des migrants, des enfin, médecins du monde, par exemple, c'est complètement positionné là-dessus. On va demander donc de l'argent des gens qui veulent donner, des donateurs. On va pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions. Mais on va être très attentif à ce que, dès que c'est possible et qu'on montre, parce que les actions sont des actions innovantes, par exemple, je ne sais pas sur les toxicomanes, c'est qu'on met en place la première fois, la réduction des risques, les salles de shoot et tout ça. Mais dès que l'État a compris que c'était intéressant de le faire pour ces populations-là, et qu'il y a une accessibilité, une acceptabilité sociale, on redonne, on se désengage, c'est-à-dire on ne veut pas prendre la place de l'État. C'est à l'État de reprendre, les programmes. Alors, c'est compliqué, parce que dans cette conception-là, pour donner un exemple en termes de traduction monétaire par rapport à ce que je suis en train de dire, le budget de Médecins du Monde, qui est 200 millions, 110 millions d'euros, est équivalent au budget d'un hôpital moyen de province. Donc, si on fait croire que la société civile va se substituer à l'État, tu vois bien qu'on en est loin, quoi. Tu vois, c'est simplement un aiguillon, quoi, qui permet à un moment donné de mettre en place des programmes, si possible, innovants, que les services publics n'ont pas envie de faire parce que voilà, ils n'ont pas suffisamment de personnes activistes engagées, ils n'ont pas suffisamment travaillé avec les gens qui sont concernés, etc. Donc c'est bien, c'est un laboratoire social quelque part, mais c'est une conception qui est complètement différente de celle des grosses usines à gaz issues de la société civile, comme celle de Gates, par exemple, de Bill Gates. Qui lui dit, moi avec 25 milliards de dollars, le Covid, je trouve la solution.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Tu vois. Donc, tu vois,
ce qui est assez controversé aussi, parce qu'on se rend compte que du coup, il va, lui en tant qu'individu, influencer de quel côté va partir la recherche.
Clairement, c'est même plus que ça, il ne l'influence pas, il la finance.
Il
la finance dans des organisations qui sont. C'est-à-dire qu'il y a quelques. Il y a quelques personnes qui sont des VIP mondiales, si tu veux, qui décident qu'ils vont plutôt travailler sur l'éradication du paludisme ou sur le VIH plutôt que sur tel ou tel par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des choix qui sont faits et qui ne sont pas du tout ni contrôlés ni validés par l'OMS, par exemple.
Mais
ils ont beaucoup plus de financement. Enfin, je sais pas, je veux pas dire de conneries, mais faudrait voir le budget de l'OMS, surtout depuis que les États-Unis s'en sont retirés, avec le budget de Bill Gates.
Je crois que Bill Gates a deux fois.
Ouais, c'est ça, ouais.
En rapport de deux.
Moi, ce qui me fascine sur ce terme société civile, c'est en fait, c'est quoi la société civile? On pourrait penser que c'est la société des citoyens, mais en pratique. Bon, moi, je suis médecin du monde, on peut dire ça, mais quand Médecin du Monde dit que c'est la société civile, mais où est la légitimité pour dire que Médecin du Monde est la société civile?
Médecin
du Monde, c'est pas
opposition à l'État.
C'est pas les citoyens qui ont voté l'existence de Médecin du Monde. Médecin du Monde, c'est une organisation privée qui est.
Non, mais ils veulent se dire différents de l'État.
Voilà, oui, ça, mais après, si on veut être, un peu critique et taquin, d'ailleurs, il y a un bouquin qui va sortir, le prochain bouquin de Lettre au Café, un peu sur ces questions. C'est que Médecins du Monde, ces associations-là, elles travaillent avec l'État, mais elles sont partenaires de l'État bien souvent. Et je rajoutais des médias, une sorte de triptyque médias, associations et État. En étant un peu taquin, elles vont souvent dans le même sens quand même. C'est-à-dire que Médecins du Monde est financé par l'État. Enfin, moi, j'ai vu comment on travaillait. On essaie de séduire l'État. Enfin, les projets novateurs, c'est des projets. Je suis provocateur, mais.
Non, mais vas-y, c'est vrai, c'est salutaire.
Qui ont vocation de séduire l'État. Et du coup, alors après, je ne dis pas, on n'est pas d'accord sur les migrants, on n'est pas d'accord. Mais quand même, dans bien des choses qui sont faites, il y a une.
Ils vont séduire par exemple, les donateurs, en prévalant qu'ils sont en plus ONG. Donc en disant organisation non gouvernementale, mais vont peut-être être très proches des États africains, justement au niveau des santé publique, et influencer. Donc oui, c'est tout le paradoxe.
Puis après, avec un jeu médiatique où, par l'intermédiaire des médias, on va jouer au chat et à la souris, on va les dénoncer les uns et les autres, et puis au final, il y a une sorte de lien, quoi. Et pour moi, c'est un peu le même camp, enfin, c'est... Mais en tout cas, ça n'est pas démocratique. C'est-à-dire que, alors, autant on va élire, peut-être qu'on élit alors on pourrait le discuter, mais on élit un gouvernement, mais on n'élit pas l'ONG, enfin, Médecins du Monde n'a pas de. Enfin, c'est pas la société des citoyens qui a donné mandat à Médecins. Enfin,
ce que tu dis, c'est valable pour. Act Up, c'est valable pour Secours Catholique, pour Entraide Protestante, oui, c'est valable pour toutes les
ces gens-là laissent à penser qu'ils représentent les citoyens, et que finalement MSF, MDM, en fait, c'est les citoyens qui agissent dans le monde.
Ils représentent des militants qui sont bougés. Ouais.
Mais est-ce que leur action est citoyenne? Est-ce qu'ils travaillent vraiment pour l'égalité entre les citoyens? Est-ce que c'est ces schémas-là?
Qui travaille pour l'égalité?
Peut-être les anarchistes.
L'égalité dans la participation. Déjà, ce que tu as soulevé, c'est très important parce que la conception libérale de la société, c'est le triptyque État, marché, société civile. On dit souvent ça.
Oui, c'est ça.
Ça,
ouais.
C'est la conception libérale. Mm-hmm. Mais qui met sous. Met toute la mécanique de fond qui est la plus importante, mais de côté, c'est le rapport au pouvoir, à la démocratie, à la prise de décision, de mettre une fondation sur le même pan, une fondation, d'une multinationale ou d'un milliardaire comme Bill Gates, sur le même pan qu'une ONG par exemple, c'est omettre tous les principes de mécanique citoyenne, électifs, de vie associative par exemple, et aussi d'orientation, de tout ça. Et donc c'est aussi intéressant de le voir plutôt à travers du prisme de la participation aussi, des choses, des organismes. Ça permet d'y voir aussi un peu d'une autre, un peu dans une autre piste, parce que on disait par rapport dans le rapport à l'État, mais ces organismes-là peuvent être considérés comme des organismes citoyens, d'une part des citoyens, qui portent une parole dans l'espace public et qui proposent en fait, qui essayent d'interpeller en se regroupant. Qui eux-mêmes ont des mécaniques qu'ils se veulent plus ou moins démocratiques, avec des degrés divers, parce que les plus gros, c'est quand même assez représentatif.
C'est des formes de contre-pouvoir, quand même.
C'est pas la société civile, c'est une société civile.
Et oui, bien sûr, bien sûr, t'as raison.
C'est qu'ils arrogent le terme la société civile, alors que c'est une idéologie des sociétés civiles.
Et oui.
Et qui prennent toute la place médiatique, qui prennent tout l'espace.
Oui, mais ce qu'il dit est assez. Je suis assez d'accord. En fait, c'est pas eux qui s'arrogent le terme de société civile. C'est dans le triptyque, si tu veux, de la société capitaliste qu'ils ont été désignés comme société civile. Eux, ils s'appellent pas. Maintenant, ils s'appellent société civile parce que c'est consacré. Mais en fait, le terme, c'est organisation non gouvernementale. C'est pas société civile. Donc, si tu veux, il y a quelque chose dans l'opposition avec le gouvernement, du point de vue fondateur. Après, sur les alliances parfois discutables qu'il peut y avoir, sur le fait qu'on. On a un certain nombre de ONG qui sont sur les tapis d'entrée des ministères, plus souvent qui sont sur le terrain, on est d'accord, ça peut être ça. Mais je veux dire, du point de vue conceptuel, la société civile, c'est pas un terme qui a été inventé par les ONG, c'est un terme qui leur a été imposé, si tu veux, par les gouvernements, qui la craignent, parce que c'est un contre-pouvoir, c'est un vrai contre-pouvoir quand même. Alors ça peut l'être de moins en moins à partir du moment où les financements, si tu veux, sont donnés par les États. Mais ça, du monde, tu connais le débat. Hein. C'est 50% de dons, 50% de financement du ministère de l'Intérieur, de l'Europe et des bailleurs.
D'où la question, et c'était intéressant ce que tu avais dit, c'est que est-ce que le bulletin de vote légitime, on va dire la démocratie par exemple et un gouvernement, est-ce que la donation légitime finalement, une ONG, si on a une ONG comme Médecins Sans Frontières qui a 98% de donations personnelles,
enfin,
92, mais c'est 90. Sûr que c'est plus de 90.
Ouais, ouais.
Ça, c'est sûr. Je crois qu'elle connaît bien Médecins Sans Frontières.
Ouais, c'est l'unique, c'est la seule.
C'est pas grave.
Mais après, oui, ça peut être un très bon débat, parce que tout dépend de ce qu'il va être. Mais quoi qu'il en soit, on suppose que la dame qui va payer avec sa petite retraite par rapport à une cause auquel elle croit, parce qu'elle s'identifie à Médecins Sans Frontières, est-ce qu'elle ne légitime pas, finalement, comme un bulletin de vote,
d'une certaine manière. C'est ça que tu veux dire, oui.
Oui, mais je trouvais être très intéressant quand tu as justement contrecarré un petit peu ce qui était dit sur cette notion de dire oui, ce n'est pas la société civile. Très bien. Là, en plus, on a plus un peu aussi parlé des ONG. Est-ce que le mouvement associatif est encore autre chose?
Parce que quand on donne à une association gouvernementale, c'est un porte-voix pour nous.
Ouais. Ouais.
C'est un porte-voix. Ouais. C'est forcément lié à nos engagements, à nos convictions. Donc le donateur de base ne connaît pas
Mais faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Ce que tu dis, c'est moi je suis tout à fait d'accord. On va pas non plus dans une société où on délègue un peu un certain nombre de pouvoirs, parce que c'est la question de la confiance qu'il y a derrière. Ouais. Donc on pense que dans l'association, les gens sont plutôt honnêtes, qu'ils ont des experts comptables qui rendent compte de ce qu'ils font. On va pas aller tous les jours vérifier où sont les comptes et comment on défend une cause. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un scandale et à ce moment-là, on leur donne plus quoi. Enfin,
ouais.
Mais je sais pas. Et puis la loi sur les associations, quand même, en France, ils se sont battus pour l'avoir quoi. Enfin, parce que les ONG sont des associations. Hein. C'est particulier, mais c'est une association. Moi, je trouve où c'est problématique, tu vois, c'est quand par exemple on a l'APF, l'Association des Paralysés de France, qui devient, si tu veux, une véritable entreprise où elle a autant d'institutions à faire fonctionner avec des salariés, donc, et où les financements sont tous donnés par l'État, là, pour le coup. Donc là, elle est complètement ficelée, si vous voulez, dans sa politique, alors que ça reste une association, par le fait que si elle ouvre son bec, elle peut avoir des financements qui vont être moins importants. Donc moi je l'ai vu, hein, j'ai vu à la CNCDH, on avait le président de la FNARS, qui est devenu la FAS maintenant, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, qui fédère un certain nombre d'associations qui ont des institutions médico-sociales, qui pensaient un certain nombre de choses qu'ils nous ont dit, en conclave privé, mais en expliquant que s'ils disaient ça parce qu'ils représentaient, puisque c'est une confédération de fédérations, ils représentaient les intérêts d'un certain nombre de secteurs, si vous voulez, où il y a des salariés, où il y a des problèmes d'emploi, il y a des enjeux qui sont des enjeux pas simplement sanitaires, et ben les gens n'adhéreraient plus à sa fédération. Donc quelque part il nous disait dites ce que je vous dis, mais dites pas que c'est moi qui vous le dis. Oui, parce que vous êtes libre de le dire. Donc la question qui se pose en fait, c'est qui est libre de dire et de dénoncer. Et c'est là où je rejoins Jean, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, s'il y a plus de collusion, avec les services de l'État, la question qui se pose, c'est pas tellement le fait qu'on soit financé par l'État, parce que l'argent de l'État, c'est notre argent, finalement. La question, si tu veux, c'est plutôt, est-ce qu'on peut continuer à ouvrir sa gueule, quoi. Et des fois, on peut se poser des questions, ouais. Ben pas pour ouvrir sa gueule, hein, pour dénoncer des trucs qui ne sont pas acceptables.
Oui, on est dans un modèle actuel mondial qui est quand même avec une hégémonie capitaliste. Donc effectivement, toute notre réflexion est différente aussi par rapport à l'anarchie, par rapport à tout ça. Parce qu'il y a ce pouvoir de l'argent.
Parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de la coopération, si tu veux, au niveau des laboratoires scientifiques, il faudrait ouvrir aussi la boîte noire. Là. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, par rapport au vaccin, c'est ce que tu disais, il y a une compétition effroyable pour savoir qui c'est qui va avoir le premier vaccin pour pouvoir mieux le monnayer, parce que le marché est immense, quoi.
Donc on n'est pas vraiment
dans la collaboration là, ou dans l'entraide ou dans la coopération. On est plutôt dans un truc où même le milieu, et surtout le milieu de la recherche et des labos a été complètement
On parle plus de l'humain, on parle plus de l'humain.
C'est l'emprise de l'économie et du marché. Mais je crois que tout le monde le sait, ça, non, ça, non, on est tous,
Oui, mais pourtant tout le monde attend le vaccin.
Il y a aussi des gens qui luttent dès maintenant pour que le vaccin, enfin qui travaillent et qui veulent que ce vaccin tombe tout de suite dans le domaine public.
Il y a tout un tas de gens qui disent que c'est un bien commun.
Il n'y a pas que ça. Et les autres labos, ça n'a plus, on n'est plus dans le soin. Hein. Enfin, on n'est plus dans le soin. On est dans le. Je ne sais pas si la bourse. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais on n'est plus du tout dans le soin. Les préoccupations n'ont rien à voir avec le soin. Préoccupation, c'est vraiment de plus cher la molécule qui va tomber au bon moment.
Et le cours de la bourse derrière.
mais tu parlais du sida tout à l'heure. Et, enfin, le scandale, c'est qu'il y a quand même la trithérapie qui n'est pas accessible à certains pays parce qu'ils sont pauvres. Ben, c'est pas grave. T'as qu'à trouver du sida, nous on en guérit. Enfin, ça, c'est quand même aujourd'hui.
Ouais, et puis dans toute l'histoire de cette affaire du sida, dès le départ, il y a des millions de morts
parce
qu'il y avait des brevets. Donc déjà là, on est dans quelque chose qui est pour le coup. Alors je sais même pas si c'est institutionnel, parce qu'on essaie de priver ça. Hein. C'est la liberté. Donc là, on est dans le libéral, pas dans le libertaire, mais dans le libéral.
Bah oui, mais parce que en fait, si tu veux, les brevets sont. Enfin, c'est un autre débat. Hein, mais... C'est quand même dans les accords de l'OMC que les brevets commerciaux, donc c'est des brevets commerciaux. Donc la question c'est de savoir, à un moment donné, est-ce que un médicament est un bien commun dont la valeur est plus importante que sa valeur économique. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui remis au goût du jour dans les discussions au niveau de l'OMC. Concernant le fait que, notamment, le futur vaccin, qui est-ce qui va l'exploiter, en fonction de qui le trouvera, combien il va coûter, parce qu'on sait très bien aussi qu'il peut coûter plus cher sur certains pays qui sont plus solvables que sur d'autres qui le sont moins, etc. Donc il y a des gros, gros enjeux économiques là-dessus, bien sûr. Mais, ça si on revient à la discussion, enfin au thème de la discussion qui est celle de la liberté, les libertaires se sont jamais, à mon avis, mis à part idéologiquement, ont jamais été une force suffisamment importante pour s'attaquer à ces problèmes. Enfin, c'est pas là-dessus qu'ils ont.
Ils sont dans une source d'inspiration, ils font du bien aussi de temps en temps.
C'est ce que j'en. Moi, tu vois, en regardant ça, parce que moi, je suis pas anarchiste, hein, je suis défendu. Mais je préfère le dire quand même.
Là, il faut couper, en fait, au moment où.
Il y a deux enregistrements.
En regardant, tu vois, et en m'intéressant à ça, je me suis dit, tiens, il y a un peu de fraîcheur historique là, qui remonte. C'est ça qui m'a intéressé, en fait. Ouais.
Même si, effectivement, là, l'exemple de la femme et son mari. Avec l'alcoolisme, bon, c'était un peu duré, mais ça fait du bien d'entendre qu'effectivement, on va regarder des conditions familiales, environnementales, sociales, et c'est ce qu'on devrait avoir, même dans ce cas-là, dans les aspects étatiques, effectivement, entre les pays pauvres, les pays riches, les pays développés, enfin, tout ça, mais bon. Donc, au moins, ça fait du bien, cet idéal, quoi.
Enfin, Ibanez, c'était dans les années 30, c'est ça ?
Ouais. 37.
Ouais, c'est quand même assez clairvoyant.
C'est juste après.
On contextualise avec l'époque et tout ça, ouais, c'est sûr qu'il y a dû un peu une forme de normativisme, moralisme, mais...
C'est l'époque aussi, si tu veux.
C'est une réflexion d'après-guerre,
on soignait les homosexuels, c'est une époque... Mais tu peux pas reprocher aux gens d'avoir les œillères de leur époque, non plus. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place si on y était tout.
Une politique de santé en public pour un régime, on va dire, anarchiste, si on était en France, en anarchie, quelle forme ça prendrait? C'est dur à dire. Quelle forme réelle? Donc, on aurait dépassé le capitalisme déjà, donc j'imagine que au niveau des entreprises, donc le marché du travail n'existerait plus, normalement, hein, une société où on aurait aboli le marché du travail, le salariat. Hein, je pense. Donc c'est le principe d'autogestion, hein. Propriété d'usage. Après, je pense qu'au niveau l'État, elle n'aurait pas cette morphologie parce que si le pouvoir politique prend, peut prendre la forme de l'État, mais pas forcément. Mmh. Un pouvoir politique, il a des multiples formes. Donc là, eux, c'est davantage, c'est ça, de se réapproprier ce pouvoir-là, notamment passer par des conseils en tout genre. Hein.
C'est ça. Mais ça, j'ai pas parlé de la gouvernementalité qu'ils proposent, mais effectivement,
voilà, c'est le conseillisme, quoi. Voilà, il y a vraiment des îlots municipaux, un peu de marteau. Donc ça ferait des maillages à partir des municipalités, quoi, hein, je crois. Les ARS, alors, je pense qu'il y en aurait plus. Les ARS, elles seraient...
Non, mais ce qu'ils disent aussi, que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, pour que les conseils de quartier, d'entreprise, tout ce maillage horizontal dont tu parles puisse à un moment donné se fédérer, arriver, si tu as discuté, pour avoir une discussion qui ne soit pas simplement la majorité, mais qui soit une discussion qui l'emporte, si tu veux, presque au consensus, tu vois, il faut du temps. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils défendent la diminution du temps de travail pour faire ce travail-là. Tu vois, pour faire ce travail politique, en fait, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que, grosso modo, la conception... Enfin, c'est ce que j'en comprends, hein. Je ne dis pas que c'est ça, absolument. Mais ce que j'en comprends, c'est que la conception libertaire anarchiste, elle a comme corollaire le fait que tu vas passer 60% ou 70% de ta vie à discuter pour avoir une décision collective. Et il y a des gens, ils aiment aller aux champignons, ils aiment faire l'amour, ils aiment faire plein de choses, mais pas ça, quoi, tu vois. Après, ça pose un problème quand même, tu vois, parce qu'on s'emmerde dans les réunions politiques quand même.
C'est aussi une question de culture et d'éducation, c'est-à-dire qu'en fait, à force de ne pas donner le pouvoir et la parole aux citoyens, le citoyen, il prend jamais de pouvoir et la parole. Et du coup, il y a aussi une culture à acquérir, tout ça, ça s'apprend. Et dire, bah, écoute, si une fois par mois, tu vas une fois par mois faire des réunions de quartier, c'est... comme tu vas voter, c'est comme ça, s'il faut le faire, ça fait un peu chier, mais t'y vas, et tout ça, ça se construit. Et je crois que c'était aussi le débat sur la question du salaire universel, c'était un moment, pourquoi pas payer les gens sans les conditions de travail, mais pour qu'ils aient un investissement social, et qu'un des contrats, en gros, c'est tu vas participer aux réunions.
Dans des vrais citoyens.
Voilà, et ça je pense que les gens, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y aurait plein de gens qui en ont envie, mais qui ne pensent même pas que c'est possible, en fait.
Et il y a des gens qui en ont très envie, mais qui n'osent pas, parce que c'est très difficile d'intervenir dans des débats, parce qu'on ne voit que des experts qui connaissent parfaitement bien le sujet. Et quand on n'est pas expert, et on n'ose pas l'ouvrir. Ben ouais. Et ça, c'est une des choses qui est très très chouette dans Mettons Café. C'est que moi je l'ouvre sur des trucs, mais j'y connais rien du tout.
Mais attends, on est un certain nombre.
Et ça fait vraiment. Mais c'est vachement bien. Tout ça, vachement bien.
Regarde, vous avez pu faire une heure et demie sur un.
Mais je n'avais jamais parlé là-dessus.
Mais tu vois, enfin, en t'entendant parler, je me demande depuis le début de la réunion s'il n'y aurait pas sur un projet anarchiste avec nos cafés. Non, mais je dis ça en plaisantant, mais il y avait une formule avec nos cafés dont on ne parle jamais, mais je vais en parler. Le sous-titre, c'est l'esprit libre de la science. Et je trouve que, enfin, quand tu parles de la liberté, moi je trouve qu'il y a cette notion de liberté de penser, en fait, et je pense qu'on pourra, enfin, peut-être se retrouver là par rapport à la théorie de l'anarchie. C'est que je trouve qu'à un moment il faut, et ça aussi je pense qu'il faut inviter les gens à être un esprit libre, quoi. Et je pense qu'il n'y a rien qui invite les gens à être des esprits libres. Je pense que des espaces comme ça peuvent inviter des gens à penser. Et moi, je pensais tout à l'heure, j'ai un copain, un spécialiste. Au début du Covid, on parlait. Alors moi, depuis le départ, je me dis, depuis le départ, je suis sceptique face à cette affaire du Covid. Depuis le départ, j'ai l'impression qu'on est face à une maladie qui est calibrée comme la grippe. Et depuis le départ, je ne suis pas bien, je ne comprends pas. Et donc je dis à mon copain spécialiste, mais il y a quand même cette affaire-là, c'est comme la grippe, quoi. Enfin, comme la grippe, je ne dis pas que la grippe, c'est une maladie sévère. Mais d'accord, je ne dis pas que c'est pas grave, mais. Et il me dit, on ne confine pas tout un pays pour la grippe. Mais en fait, lui, sa théorie, c'était le confinement, il est justifié parce qu'on confine, finalement, parce que l'État a dit qu'il fallait confiner. Et
il y a un moment où il prend les conseils.
Oui, mais d'accord, mais l'État a dit qu'il fallait confiner, pourquoi
c'est là où il faut remettre de la pensée.
L'État a confiné parce qu'il ne pouvait pas assumer ce qu'il imaginait des conséquences de s'il ne confinait pas. C'est pas une décision rationnelle, c'est pas une décision concertée. C'est juste que, oh là là là, si jamais il y a des milliards de... Si jamais c'est la cata, il vaut mieux que je profite. Mmh.
Oui, de son rôle par rapport à
ce qui m'a impressionné de sa remarque, c'est que pour lui, en fait, si l'État confinait, c'était justifié. En fait. Oui. C'est-à-dire qu'à j'ai l'impression qu'à aucun moment, il pouvait penser que l'État se trompait. Et que l'État, et moi, ça me ramène à la pensée d'Anna Arendt, là, que j'aime bien, et qui dit ça, enfin, par rapport, alors je ne sais pas si elle se considérait comme anarchiste, mais je vois pas mal de liens avec sa pensée, où bon, elle prenait un exemple extrême, du nazisme et de Eichmann, qu'elle a étudié, l'officier SS, et sa théorie sur comment Eichmann a pu arriver à tuer tous ces, à participer à la solution finale, alors que quand on le voyait, c'était un homme un peu banal, quoi. Elle disait, cet homme-là n'avait juste pas d'espace pour penser. Et du coup, sans espace pour penser à la question politique, il n'a pas vu que ce que lui demandait l'État était une folie. Il n'a juste pas compris. Il disait, mais tuer des juifs, c'était pas un problème parce que c'était l'État qui demandait ça. Dans la mesure où l'État demande, moi j'exécute et ça me pose zéro problème. Il allait même jusqu'à dire que c'était un problème médical, l'extermination des juifs. C'était de la technique médicale, voire bureaucratique et de santé publique, entre guillemets. Et c'est intéressant de dire que... Si on perd ces espaces de pensée... collaborer à des choses catastrophiques. Alors je compare pas les situations du nazisme avec celles d'aujourd'hui, mais des fois on a l'impression aujourd'hui qu'il manque ces espaces de pensée et de dire mais en fait là qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que moi franchement ça me pose ce qui se passe aujourd'hui me pose question, problème,
ça pose question à beaucoup de gens,
C'est pour ça que moi j'aimerais témoigner sur le fait que du coup aussi l'État, moi je l'entends un peu comme au niveau médical, au niveau du soin, comme un peu côté le pouvoir, on va dire, alors je ne dis pas des médecins, mais effectivement, avec cette réflexion que si un docteur me dit de prendre tel et tel médicament par rapport à une maladie, je vais le prendre parce que je vais considérer qu'il fait effectivement son travail et que comme l'État, c'est noble et je ne vais pas avoir cette réflexion de pensée jusqu'au moment où. Peut-être, effectivement, je vais me dire, mais tiens, c'est peut-être en train de faire plus de mal que de me faire du bien. Et au niveau du soin, voilà, peut-être que tu disais tout à l'heure, hein, avec le côté Asie ou autre, mais effectivement, à des moments, on sort de cette politique européenne occidentale qui est avec un soin normatif, très médicalisé, avec des habitudes, voilà. Et on ne va pas essayer de voir ce qu'il y a en pluridisciplinarité et tout ce qu'il y a autour. Et ce qui fait qu'effectivement, peut-être que certains patients experts deviennent anarchistes parce qu'à un moment donné, ils vont réfléchir autrement.
Médecins aussi.
Oui, alors voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'allais venir jusque-là, mais je témoigne si j'ose, je peux. Sans rentrer dans le secret médical, mais.
C'est l'intérêt.
Comment dire, voilà, moi j'ai à un moment donné, effectivement, vu que je subissais les médicaments que je prenais, et c'est dans des rencontres, notamment avec le docteur Fayat. Effectivement, je me sens du coup dans une liberté de penser, dans les échanges qu'on peut avoir, qui sont constructifs pour finalement devenir un autre type de patient qui n'est plus sous cette dictature étatique, on va dire, mais qui faisait qu'avant, je n'aurais jamais eu cette réflexion de me dire, ce qu'il me donne, c'est pas bien, ça me met en danger. Et c'est mon docteur, c'est l'État, je l'écoute.
Mais sérieux, ce que tu dis... Moi, ça me renvoie beaucoup, en fait, même tout ce débat, que dans la conception anarchiste, en fait, ça demande peut-être un très haut, voire même le plus haut degré d'exigence, finalement, envers soi-même.
C'est ça.
C'est-à-dire de pouvoir se réapproprier sa propre pensée, de se responsabiliser aussi, peut-être de sortir aussi un moment d'une position un peu de victime, où on est prise en charge par une force extérieure, mais aussi qu'on va pouvoir accabler, quelque part. Donc c'est vraiment aussi une histoire de reprendre la pleine responsabilité de nos actes et de notre pensée. Et moi je me dis que la liberté, vu que c'est un des fondements de l'anarchisme, le problème c'est qu'elle est vertigineuse aussi, cette liberté-là. Comment est-ce qu'on va... qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, pour moi ça pose toute la question philosophique humaine, et c'est pour ça que j'ai l'impression que comme on veut pas traiter cette question, on a peur de la traiter comme ça nous terrorise, et ben on va finalement déposer, c'est comme si on allait déposer notre liberté et tout le questionnement qu'il y avait autour à des mains, à des forces extérieures, voilà, auxquelles on allait s'en remettre un peu aveuglément, mais aussi qu'on allait pouvoir accusé. Voilà, donc pour moi, c'est un petit peu ça que ça soulève, la question de l'anarchie. Et aussi, parce que là, je suis en train de lire un livre de ce que nous apportent les peuples racines, donc où ils reviennent à des grandes questions de santé par rapport à des micro-sociétés, en fait, un petit peu ancestrales et certaines qui ont perduré dans le temps. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est que quand c'était inconcevable pour eux de laisser un individu malade au sein d'une société, parce que pour eux, quand un individu était malade, déjà, c'était un reflet, un miroir direct de la société elle-même qui était malade. Mmh. Mais en plus, il allait rendre lui-même la société malade si la maladie perdurait. C'est-à-dire qu'il y avait c'est vraiment un effet où l'un influence l'autre en permanence. En fait, il n'y a pas de dissociation entre l'individu et le tout. Et dans certaines de ces sociétés, pour soigner un individu malade, c'est toute la communauté, en fait, qui se mettait autour de lui, à travers des rituels, à travers des soins. Il pouvait y passer des jours, en fait, des journées entières, jusqu'à ce qu'il y ait une solution thérapeutique ou un mieux-être ou quelque chose qui se réveille, quoi. Donc, en fait, c'était toute la société qui se remettait en cause, en fait, elle-même, dans ses failles, quoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, nous, en tant que communauté, on a pu rendre cet individu malade ? Voilà, et pour moi, il y a aussi ce retour-là et cette question-là qui se pose pas forcément, du coup, dans la structure actuelle, mais voilà.
Du coup, ça instaure le rapport d'égalité aussi.
Exactement.
Avec les personnes, c'est-à-dire... Ouais. Si lui est malade, on va tous s'investir pour qu'il soit plus malade. Et du coup, se mettre à son niveau, passer du temps. C'est pas le malade, lui, le pauvre, il est malade. Je sais pas, c'est...
Et la question qu'elle pose, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il soit malade, sachant que les peuples racines, ils ne se considèrent pas comme humains, mais qu'ils considèrent la nature, les animaux, etc., comme un tout. Et que voilà, et effectivement, c'est une réflexion globale sur qu'est-ce qu'on a déréglé dans notre métabolisme global pour que cette partie du tout soit malade. Comme si c'était un grand organisme et qu'on était chacun un bout d'un organe. Quoi.
C'est exactement ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de penser qu'en fait, dans ces sociétés-là, par exemple, si c'était des guérisseurs, des chamans, enfin. Peu importe le nom qu'on leur donne, mais les hommes médecine ou les femmes médecine, elles ne décidaient pas la plupart du temps elles-mêmes ou eux-mêmes d'avoir ce rôle. Elles étaient soit choisies, parfois même avant leur naissance d'ailleurs, mais la plupart du temps elles étaient choisies parce que elles faisaient autorité dans leur domaine naturellement, enfin autorité au sens qu'elles étaient reconnues en fait pour leurs compétences, mais c'était jamais elles qui allaient décider à un moment donné, qui allaient s'octroyer ce rôle-là, quoi. C'était toujours les individus qui allaient lui donner cette place-là en fait, qu'elle allait accepter ou pas. Voilà, il y avait jamais de... C'était jamais imposé, quelqu'un qui allait s'imposer en tant que soignant par lui-même, quoi.
Et de la même manière, c'est pas quelqu'un qui s'impose l'obligation de soigner. Dans le sens où elle met les... Enfin, le soignant, il va mettre les moyens. Il a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Dans le sens où, moi, j'ai ce savoir, je mets ces moyens, et si ça fonctionne pas, c'est pas de ma faute, entre guillemets. Il n'y a pas l'obligation de résultat, pas l'obligation de soigner, mais l'obligation de prendre en charge, ou en tout cas pas l'obligation, mais le...
Et en même temps, il y a quand même cette notion d'une efficacité qu'il faut, enfin, ce que j'entends aussi là dans ce que tu dis, c'est-à-dire que on va entourer le patient jusqu'à ce qu'il aille mieux. Mmh. Et tant qu'il ne va pas mieux, on reste là. Et moi, ça, c'est quelque chose que je vois et que la réflexion sur ces pratiques-là m'a apprise et qui contribue à changer ma pratique. C'est que en médecine, des fois, il y a des patients, moi j'appelle des patients pénibles, et carrément on n'y arrive pas. Et assez rapidement, dans ces situations, les liens peuvent se rompre. C'est-à-dire, en gros, lui, il est chiant, de toute façon, il est chiant. Et on s'est disputé, il s'en va, et puis ok, c'est cool, de toute façon, il est chiant. Enfin, je caricature, mais c'est souvent comme ça que ça termine une relation thérapeutique. Et cette idée de dire, tant que j'y arrive pas, il faut, il faut insister, il faut chercher, il faut... Et je trouve qu'il y a quand même à un moment l'efficacité est aussi centrale. À un moment, il faut être efficace et tant que tu n'arrives pas, tu réessayes, la communauté se réunit. Enfin, je pense.
Ouais, mais tu vois là, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même rapport parce qu'on est dans du 1 à 1 entre le patient et le médecin en général, alors que là, il y a une intelligence collective qui est mobilisée aussi, même s'il y a le 1 à 1 aussi avec le soignant, tu vois, mais ça déborde ce cadre-là en fait. Mmh. Et moi, c'est vraiment cette notion qu'à un moment donné, il y a vraiment. Ouais, cette intelligence collective, il y a toutes ces forces et ces énergies individuelles au service de tous qui... Et du coup j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus évident, tu vois, dans le fait de pas lâcher, quoi, tu vois, parce qu'il y a il y a un regroupement, c'est pas, tu vois, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile quand on est dans un rapport parce que là on est nous-mêmes, on peut être activés aussi à des endroits, tu vois, où voilà, où parfois on se sentir démuni. Mais voilà, après je te rejoins dans ce que tu dis, qu'il y a un moment où ça peut être intéressant de persister, voilà, et d'aller au-delà de nos résistances, mais ou pas, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment où comment dire, on n'est peut-être pas le bon soignant pour notre patient, enfin, tu vois ce que je veux dire, donc il y a aussi un moment où on peut aller orienter vers quelqu'un d'autre aussi, tu vois, enfin, en tout cas ça interroge là-dessus.
Dans l'exemple qui était très intéressant aussi, tu mettais en avant cette notion de il est malade et nous en sommes responsables. Donc à quel moment aujourd'hui, nous, quand une société va être malade, l'État peut devenir ou non responsable? C'est ce que je me questionne, parce qu'avec finalement la démarche, il y a eu certaines démarches, je pense, citoyennes, où il y a eu une volonté d'attaquer l'État par rapport à la gestion de la
grippe. Il y a eu une trentaine de plaintes qui ont été portées. Ouais. C'est pas que ils ont eu, ils l'ont fait.
Ils l'ont fait, ok. Et c'est là aussi où ça me questionne sur cette notion de dire, mais très bien, là on parle effectivement d'un enfin oui, j'en viens à un modèle logique quelque part, parce que il y a une capacité à se remettre en cause ou au moins se questionner. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, dans notre modèle purement étatique, on a ou la possibilité de le faire avec la liberté de penser, ou...
Moi, je pensais à une initiative qui a mis en place Habitat Humanisme, les escales solidaires, qui sont donc des lieux ouverts à tout public. Les gens de quartier, les gens de passage, les migrants. Donc c'est un lieu où on peut prendre un petit déjeuner, avoir un repas pour 2 euros, financé par la banque alimentaire, jouer aux cartes, avoir des ateliers. Et je veux dire, on y vient, il y a un lieu qui vous attend. On ne sait pas pourquoi on vient. Et il y a vraiment, ça rejoint ce que vous dites là, c'est comment dire, les personnes présentes qui portent les personnes qui arrivent, quoi, qui, quelque chose qui se fait au fil du temps, hein, ça ne se fait pas tout de suite. Donc actuellement, il y en a quatre qui sont ouvertes. Il y a un bus aussi d'escale solidaire qui sillonne les quartiers, les arrondissements où il n'y a pas encore d'escale implantée. Il prévoit d'en implanter une dans chaque arrondissement. Et donc c'est vraiment, je veux dire, c'est peut-être pour certaines personnes un lieu où on apprend aussi à échanger avec des thématiques.
C'est l'initiative de...
C'est Habitat Humanisme.
Oui, donc c'est une association, enfin, c'est une initiative citoyenne pour le coup.
Oui, je dirais que là, les escales, c'est citoyenne, mais c'est citoyen. Habitat Humanisme, au départ, c'était le logement.
Oui, mais...
C'est pour Montbéliard, il n'y a pas une antenne nationale.
C'est nationale.
Ah, c'est national, d'accord. Et il y en a quatre.
Donc il y a une tutelle d'État. Enfin, je veux savoir s'il y a une tutelle d'État.
Oui, c'est ça.
Oui.
Non, il n'y a pas de tutelle d'État. C'est une association indépendante.
D'accord.
Oui, qui vit de dons.
Donc il y a peut-être des subventions à un moment donné, mais qui est pas, c'est pas parapublic. Hein. C'est une association.
Puis ils ont du bâti.
Oui, ils ont du bâti.
Justement, ils sont toujours, par exemple, à propos du mal logement, des gens, la ville de Lyon, la métropole va dire on ne peut pas loger. Eux mettent en place des containers aménagés. Pour dire, regardez, nous, on loge les gens, c'est isolé, c'est remarquable. Hein. Moi, quand j'ai vu cet immeuble 3 étages, fait avec des containers devant le siège, là. Et en plus, comment dire, ils occupent des terrains que la ville prête. Et ces containers peuvent se déménager, donc ils peuvent loger des migrants. Mais je veux dire, ils sont toujours en avance, créés aussi, sollicités, je veux dire.
L'innovation.
L'innovation, quoi. Avoir toujours presque un pied dans le vide pour montrer, bah, vous n'avez pas de, de logement, bah, regardez, nous, on trouve des solutions.
Parce que vous dites, ça me fait penser au, ben, au bus de Médecins du Monde, là, qui est un endroit d'accueil. Alors moi, j'y étais il y a une quinzaine d'années, mais j'adorais cet endroit parce que il y avait deux, trois bénévoles de Médecins du Monde dont je faisais partie. Et bon, on était habillés, il n'y avait pas de costume de soignant. Donc les gens de la rue rentraient dans le bus et il y avait une grande régularité, c'était trois soirs par semaine, puis c'était des soirs, hein, c'est-à-dire ça durait 4 heures. Ouais. Et du coup, moi pendant 2 ans, j'ai passé 3 fois 4 heures par semaine dans cet endroit. Ouais. Bon, c'était peut-être pas autant tout le temps, mais il y avait un rapport qui se créait avec les gens et il y avait donc personne n'était désigné comme soignant parce que c'était purement pour boire un café. Il y avait aussi de l'échange de seringues, c'était sorti sur la toxicomanie, mais. Moi, c'est une des rares expériences que j'ai fait d'un soin qui était basé pour le coup sur la fraternité en fait. Ce qui faisait soin, c'était le groupe, quoi. C'était cet ensemble de 7 personnes qui étaient. Je me rappelle d'un jour, un patient schizophrène m'a dit mais t'es de Médecins du Monde, toi ? Et en fait, je le connaissais depuis 6 mois, il croyait que j'étais de la rue en fait. Et j'ai trouvé ça génial. En fait. À un moment, il y avait plus cette distinction-là et il y avait quelque chose qui soignait vraiment parce qu'on avait des analyses de la pratique, on reprenait vraiment, on observait ce soin-là, mais il n'était pas délivré par le médecin comme le curé pourrait délivrer le soin du quoi. Il y avait un vrai soin, évidemment. Heureusement que c'est pas enregistré.
Moi, j'ai fait juste un geste, donc on
c'est dangereux. Cette thématique est dangereuse, je le savais. Mais...
Il faut faire en visée aussi, hein.
C'est pour ça que t'as ton masque.
Depuis tout à l'heure, j'en ai pas, en fait.
Bon, peut-être pas trop...
Ni Dieu ni maître, hein. Ni Dieu ni
maître. Et pour revenir à ta question, sur à quoi ressemblerait un système anarchique, moi je vous dis qu'un espace comme ça pourrait être un de ces comités... Un de ces comités sur la santé, en fait, ça pourrait s'organiser un peu comme ça. Alors le problème, c'est qu'à un moment, il faudra... Oui, j'imagine qu'à un moment, il faudrait quand même décider les choses, quoi. non, mais sérieusement, c'est un peu ça, quoi.
Et ça marche à échelle humaine petite, mais je pense que dès qu'on se développe, on le voit dans certaines ONG, entre leur mission de base et ce qu'elles sont devenues 40 ans plus tard, sans rien citer, effectivement, elles se sont développées. Quand elles ont choisi ça, malheureusement, il fallait cette notion de pyramide et de gouvernement.
Et dans les courants anarchistes que j'ai jamais fréquenté, mais je connais quelqu'un qui est vraiment, qui se dit anarchiste et qui l'est fondamentalement, puisqu'elle s'est retrouvée face à un tribunal en disant « Non, je ne me défendrai pas parce que je ne reconnais pas votre loi. » Et vraiment, et elle m'expliquait que, mais en fait, alors elle a fait des AD, des machins et tout, en Italie, en France, ailleurs, etc. Et elle me dit « Mais à chaque fois que j'arrive dans un comité, il y a 6... Alors au début, c'est génial, on commence machin et tout, et puis en 3 jours, il y a une organisation qui se hiérarchise et il y a une direction qui s'impose. C'est comme si on... j'ai l'impression que c'est très humain. Je pense que c'est très dans la nature. Mais pour le coup, c'est pas toujours super bienveillant.
Est-ce que l'obéissance...
Mais c'est peut-être cette partie violente... Pardon, la partie violente...
Dont on parlait tout à l'heure.
Ouais. Pardon, excuse-moi.
Non, tu voulais dire quelque chose ?
Non, mais je disais, est-ce que l'homme, il n'a pas besoin, entre guillemets, d'obéissance, quoi ? Il ne recherche pas ça.
Moi, ce que j'ai remis d'Anna Arendt, c'est qu'elle a la nature humaine, c'est mon opinion, mais la nature humaine,
il dit tout. Oui, c'est la servitude, comment il appelait ça ?
La servitude volontaire.
Et du coup, le problème, c'est aussi de ne pas s'enfermer, à mon sens, dans une idée de nature humaine, l'homme est un loup pour l'homme, oui mais non. L'homme est bon par nature, bah oui mais non, simplement tout est possible, et c'est pour ça que la politique a du sens, c'est pour ça qu'il faut de la politique, parce que tout est possible, et que tout le monde est singulier, carrément, on est, les fourmis, a priori, je connais pas, j'ai jamais discuté avec elles, mais allez voir, elles ont pas besoin de politique, parce qu'elles sont toutes pareilles, elles vont dans le même sens, mais la nature de l'homme, c'est la diversité.
Mais elles vont servir la reine.
Oui, bon après je m'arrêterai sur les fourmis parce que j'ai jamais discuté avec elles, donc c'est là où on est limité, hein, parce que les pauvres ont... Mais bon, je les imagine comme ça, pas très politique comme vous l'avez.
Il faut lire Bernard Verrier.
Oui, c'est très logique. Mais en tout cas, je pense que c'est important ça aussi pour avancer, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine, et que du coup tout est possible, et que ça dépend de notre volonté, quoi. Et carrément, il faut décider. Et pour, je rebondis juste pour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une gêne aussi à se dire. Enfin, il y a un besoin de se distinguer de l'anarchisme. Non, moi je suis pas anarchiste. Et c'est intéressant parce que, à la fois, c'est très séduisant comme idée, et puis à la fois, on sent que les gens sont gênés.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'on a été conditionnés comme ça, on a plus de liberté.
Alors que moi, je trouve ça chouette. Moi, je te suis beaucoup. Après, ça,
je pense que c'est.
Non, c'est pas. Non, parce que là, je me sens que. Excuse-moi, il y a. Moi, je dis je ne suis pas anarchiste parce que je ne suis pas anarchiste.
Oui, tout à fait.
Mais moi, pas pour distancier, c'est parce que je pense qu'on n'a pas trouvé de meilleure méthode, si tu veux, pour justement contrebalancer, si tu veux, cette espèce de besoin peut-être biologique ou social qui consiste à hiérarchiser tout de suite, si tu veux, dans les rapports de force, hein, parce que c'est dans les rapports de force qu'on hiérarchise, hein, les individus. Il n'y a rien d'autre que la démocratie, et la démocratie nécessite à un moment donné un État. Alors après, tu peux penser l'État de façon différenciée, tu peux le penser fédéral, déconcentré, etc. Nous, on a une histoire tellement centralisatrice depuis Napoléon, si tu veux, que l'État, si tu veux, à la fois, comme on dit, on est tous des assistés, et en même temps, on le est. Mais c'est très français, ça.
Pour monter au roi soleil.
C'est très français, si tu veux. Si tu vas aux États-Unis, ce que fait l'État fédéral, si tu veux, c'est ce que ne peut pas faire, si tu veux, les États, si tu veux. Ce que font pas les États, c'est ce que ne peuvent pas faire, si tu veux, les villes. Et tout ce qui peut se faire là-bas, c'est le principe de subsidiarité. Si tu veux, d'abord, voilà. Et on peut penser l'État comme ça, c'est-à-dire que l'État ne devrait s'occuper que ce que ne peut pas faire les citoyens à différents niveaux. Donc moi, c'est ma conception, mais c'est pas une conception anarchiste. C'est pas une crainte de l'anarchie. C'est pas, pourquoi ? Parce que je pense que les anarchistes, culturellement, je suis en accord avec ce qu'ils disent, mais ils ont un point aveugle qui est celui de la négation de ce que tu es en train d'expliquer, c'est-à-dire que la négation du fait que quand les hommes, si tu veux, se collectivisent, automatiquement ils se hiérarchisent. Donc il faut le contrebalancer, ça, parce que si on le nie, eh bien, de fait, naturellement, dans les groupes anarchistes, tu as des leaders, tout de suite, si tu veux. Tu as des combats narcissiques, mais moi j'en ai un copain aussi qui est... C'est effarant, quoi, enfin, c'est même invivable, quoi.
Après, question, très honnêtement, je te la dis pas du tout, hein.
Non, mais c'est l'habitude de la discussion, et c'était juste pour reprendre un peu la parole.
Non, mais t'es vrai. Enfin, je te disais un peu, mais pas du tout.
Ah oui, d'accord.
Non, mais plus généralement, enfin, c'est quand même des belles idées, quoi, politiques, et dans le langage courant, l'anarchie, c'est pas du tout, c'est une connotation assez négative.
Ah oui. Oui, surtout.
Il y a peu de gens qui se revendiquent.
Mais pas dans ma génération, toi. Quand j'étais jeune, l'anarchie, c'était un idéal.
Ouais. Mais aujourd'hui, c'est
pas. Aujourd'hui, la jeunesse, je ne sais pas s'ils connaissent le mot, quoi.
Bah, c'est les black blocs, c'est ça qui est. C'est des voyous, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, oui, les casseurs.
C'est les terroristes, c'est les délinquants.
Ouais, non, mais c'est...
C'est marrant, c'est les Black Blocs de jamais leur accorder une pensée politique. C'est-à-dire de jamais se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont en tête, ces jeunes-là ?
Mais ils ont une pensée politique.
Oui, bien sûr, mais tu vois, dans les médias, ça n'est jamais abordé comme tel. Alors que tu pourrais avoir, je sais pas, des reportages, des interviews, pour les interviewer, les gars. Enfin, ils ont peut-être pas envie de parler à la radio, c'est sûr, mais en tout cas, leur pensée politique est sûrement très... structurée et intéressante.
Je suis pas sûr que BFM arrive à les avoir.
Ils ont essayé.
Oh, ils ont dû être interviewés par France Culture. Non,
bon, écoutez, je sais pas si quelqu'un a des choses à déclarer encore ou.
Ouais, moi je voudrais dire quelque chose.
Allez.
Mort aux vaches, vive l'anarchie.
Merci.
Bon, je vous rappelle juste les prochaines dates, les prochaines rencontres. Le 6 novembre, il y a une soirée, donc une rencontre sur l'histoire scientifique de l'ethnocafé entre science et expérience. Le 20 novembre, il y aura une soirée animée par l'IA sur les poétiques de soins, sur le thème « C'est nous pour mieux soigner ?» Point d'interrogation. Et le 18 décembre, un nouvel apéro pour entamer la deuxième partie de l'année. Nous serons déjà presque en hiver. Au niveau des formations, puisque c'est la nouveauté de cette année, nous proposons des formations à la fois théoriques et d'expérience. La première sera le 14 novembre sur les huiles essentielles. Donc l'idée, c'est de proposer, au-delà des apports théoriques qu'on apporte ici, une expérience de soi. Une expérience différente de ce qu'on peut vivre d'habitude. Donc la première expérience de soins qu'on propose, c'est sur les huiles essentielles. Le 5 décembre, il y aura une formation sur notre méthodologie de travail, la méthodologie dite mouvementée. Et le 12 décembre...
C'est bien, on peut s'arranger. S'il faut payer, on paiera.
Et le 12 décembre, deuxième formation d'expérience, la méditation pleine conscience.
Le début décembre, elle est costaud.
Allez, on dit merci à ceux qui nous écoutent.